Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h.
Le journal en français facile.
Adrien Delgrange.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 6 décembre, nous sommes en Roumanie dès le début du journal, avec ce retournement de situation de dernière minute, alors que les Roumains étaient appelés à voter ce dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Cette décision de la Cour constitutionnelle de Roumanie qui annule le premier tour de la présidentielle. Notre envoyé spécial nous attend à Bucarest. L'actualité en Syrie, les rebelles gagnent du terrain. Ils s'approchent à grands pas de la capitale Damas. Le chef des rebelles dit vouloir renverser le président Bachar el-Assad. Sur le continent africain, à N'Djamena, environ 500 personnes se sont réunies aujourd'hui pour le départ des troupes françaises du Tchad. Et puis enfin, cette signature d'Ursula von der Leyen risque de froisser les relations avec la France. La présidente de la Commission européenne donne son accord pour un marché de libre-échange entre l'UE et plusieurs pays sud-américains. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On annule tout et on recommence. Coup de théâtre en Roumanie. Les juges de la Cour constitutionnelle annulent le premier tour de l'élection présidentielle. Premier tour qui avait vu la domination surprise d'un candidat d'extrême droite, Călin Georgescu. Il y a quelques jours, les services de renseignement roumains pointaient une ingérence russe, une intervention non désirée de la Russie dans la campagne électorale. Nous retrouvons en direct de Bucarest à Blajuna. Heidi Abla, comment est accueillie cette annulation ?
Eh bien, c'est le choc et la stupéfaction après ces décisions surprises. La finaliste de la présidentielle, Elena Lasconi, a condamné fermement ce qu'elle qualifie de piétinement de la démocratie dans une vidéo publiée sur son compte X, Twitter. L'autre finaliste, le candidat d'extrême droite, Călin Georgescu, n'a pas encore parlé. Il le fera dans 3 heures. Il y a eu d'autres réactions, notamment parmi la société civile. L'organisation Expert Forum a qualifié la décision d'illégale. Elle considère qu'elle donne du grain à moudre à tous ceux qui remettent en cause le système démocratique. La décision de la Cour, qui n'est pas publiquement justifiée, elle intervient, vous l'avez dit, quelques jours après que des documents des services de renseignement roumains ont pointé l'ingérence de la Russie dans le scrutin. Le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'il enquêterait sur les faits présumés. Et d'ici là, tout le processus électoral de la présidentielle doit se rejouer. Les dates seront annoncées ultérieurement par le gouvernement, a annoncé la Cour constitutionnelle. C'est le saut dans l'inconnu pour les Roumains. Certains ont commencé à voter. Pourtant, ce sont les Roumains de l'étranger. Plusieurs bureaux poursuivaient leurs opérations malgré la décision choc de la Cour constitutionnelle.
Merci Abla, Abla Junaidi en direct de Bucarest pour RFI. L'actualité au Proche-Orient, en Syrie, l'avancée des rebelles islamistes. Après Alep et Hama, ils se dirigent désormais vers Homs, dernière grande ville avant la capitale Damas. Leur objectif est de renverser le régime du président Bachar el-Assad. Pour cela, nous avons le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires, déclare le chef du groupe Hayat Tahrir al-Sham qui rassemble ces rebelles. Il s'appelle Abu Mohamed al-Jolani. Il s'exprimait dans une interview à la chaîne américaine CNN. Publié ce matin, Muriel Paradon.
Barbe bien coupée, uniforme militaire, Abu Mohamed al-Jolani montre un visage bien différent de celui qu'il avait lorsqu'il était le leader d'une branche d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, Hayat Tahrir al-Sham, le groupe islamiste qu'il dirige, n'a qu'un objectif, dit-il, libérer avec d'autres factions rebelles la Syrie du régime de Bachar el-Assad. Et leur offensive a, semble-t-il, été bien préparée.
Ces dernières années, il y a eu une unification des différentes opinions et la création d'institutions dans les régions libérées de la Syrie. Cette institutionnalisation a mené à une restructuration des factions militaires. Elles se sont entraînées en commun dans des camps et elles ont adopté une certaine discipline.
Pour les Syriens issus de différentes minorités qui s'inquiéteraient de l'avancée des rebelles islamistes, Abu Mohamed al-Jolani se veut rassurant.
Personne n'a le droit d'effacer un quelconque groupe. Les différentes communautés ont coexisté dans cette région durant des centaines d'années et personne n'a le droit de les éliminer. Il doit y avoir un cadre légal qui protège et qui assure les droits de chacun, pas un système qui serve une seule communauté comme ce qu'a fait le régime d'Assad.
Le chef de Hayat Tahrir al-Sham, dont la tête a été mise à prix 10 millions de dollars par les États-Unis, affirme avoir évolué et vouloir bâtir aujourd'hui une nouvelle Syrie qui permettrait à tous les réfugiés de rentrer chez eux.
Des groupes armés au nord de la Syrie, des groupes armés également dans le sud du pays. Ils auraient repris cet après-midi le contrôle d'un poste frontalier avec la Jordanie, un poste frontalier tenu par les forces gouvernementales syriennes. C'est ce qu'affirme une ONG sur place. Quant à la Turquie voisine, le président turc accentue la pression sur Bachar el-Assad. Recep Tayyip Erdogan souhaite que l'avancée des rebelles en Syrie se poursuive sans incident. La Turquie soutient l'opposition armée depuis ses débuts. Et puis enfin, toute dernière information, après la Chine hier, la Russie appelle aujourd'hui ses ressortissants à quitter la Syrie.
Le journal en français facile.
C'est du gagnant-gagnant, promet la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle annonce que les négociations ont abouti concernant le traité du Mercosur. Pour rappel, ce traité doit établir de nombreux liens commerciaux de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Un accord décrié par une partie des États membres de l'UE, dont la France, sous pression de ses agriculteurs. L'accord doit être encore validé par les chefs d'État des pays européens, mais Ursula von der Leyen crie déjà à moitié victoire depuis l'Uruguay où elle se trouve.
Je veux m'adresser à mes compatriotes européens. Cet accord, c'est une victoire pour l'Europe. 60 000 entreprises exportent aujourd'hui vers le Mercosur, dont 30 000 petites et moyennes entreprises. Elles bénéficient de tarifs réduits, de procédures douanières simplifiées et d'un accès préférentiel à certaines matières premières essentielles. Ça créera d'énormes opportunités commerciales. C'est un bon jour pour le Mercosur, un bon jour pour l'Europe. Assurons-nous que cet accord tienne ses promesses et serve les générations à venir.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne aujourd'hui en Uruguay pour annoncer la signature de cet accord. Alors cette annonce d'un accord par la Commission européenne entre les pays de l'UE et ceux du Mercosur n'engage qu'elle. Fin de citation. C'est ce que dit la ministre déléguée au commerce extérieur des missionnaires de la France, Sophie Prima. Et puis peut-être que l'accueil aurait été glacial ce week-end à Paris. Attendu dans la capitale française ce samedi, Ursula von der Leyen, à l'instant, annonce qu'elle ne sera finalement pas présente à la réouverture de Notre-Dame. L'actualité au Tchad, à N'Djamena, environ 500 personnes se sont réunies aujourd'hui pour le départ des troupes françaises. Après des manifestations la veille à Abéché, à l'appel du maire de cette ville, c'est au tour de la capitale de se mobiliser aujourd'hui. Un premier rassemblement autorisé a eu lieu tôt ce matin à l'appel des partis politiques proches du pouvoir. Puis de petits groupes, surtout des jeunes, sont sortis dans la rue spontanément. La politique en France, où les lignes bougent au lendemain de la démission de Michel Barnier, en particulier à gauche, où le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est dit prêt à discuter d'un gouvernement d'intérêt général. Et puis enfin, connaissez-vous le podcast En cours proposé par RFI, 15 minutes sur les tendances dans l'enseignement du français en langue étrangère. En cours, l'éducation aux médias et à l'information, ça sert à quoi? Déborah Gros.
On pense souvent que les jeunes s'intéressent pas à l'information. Eux-mêmes, parfois, disent non, je m'informe pas. Mais en fait, l'information, ils peuvent aller l'acquérir de façon volontaire, mais elle vient aussi à eux, parce qu'on est baigné dans un environnement peuplé de médias en tout genre. Donc on a énormément d'informations qui viennent à nous de façon plus ou moins consciente. Donc c'est intéressant aussi de penser avec eux, mais c'est quoi s'informer? À quoi ça sert? Comment ça peut être utile dans notre vie quotidienne de citoyens, de comprendre l'information qui vient à nous?
Un podcast en cours à retrouver sur les différentes plateformes. et sur notre site francaisfacile.rfi.fr. Ainsi se referme ce journal, l'heure de retrouver Annie Gasnier et ses coéquipiers.